France Inter, le 18-20.
Et vous, vous êtes quel genre? Alors, le genre qui n'a jamais un euro dans la poche, le genre qui râle quand un commerçant n'accepte pas encore le sans-contact, même quand vous avez tout juste acheté une demi-baguette et un croissant pour 1,20€, du genre qui lève les yeux au ciel quand le chauffeur de taxi dit que son terminal de carte bancaire est cassé, vous ne jurez que par les paiements par appli, par PayPal, par Apple, par Google Play, vous passez par les caisses automatiques exclusivement au supermarché, bref, la dernière fois que vous avez vu un billet, c'était... il y a longtemps. Ou alors vous êtes l'inverse, vous êtes celui qui cherche sa monnaie pour le péage, celui qui refuse justement le sans-contact parce qu'il n'a pas confiance, vous êtes celui qui n'utilise sa carte bancaire que pour les achats qui dépassent les 20, même les 40 euros, vous êtes celui qui refuse de laisser son numéro de carte un peu partout sur des sites internet. En France, nous sommes un peu des deux. Nous sommes les champions des achats dématérialisés. Nos paiements en carte sont devant beaucoup de nos voisins européens. Le sans-contact a été multiplié par 1000 en 5 ans. Quand on a mis du temps, mais on y est et on expérimente en ce moment même les supermarchés sans caisse. Et pourtant, nous sommes aussi attachés au liquide, au flouze, à la thune, à celle des clopes, à celle du café au comptoir, à celle du marché, à celle de la baguette. Un récent sondage pour Brinks et pour Ifop dit que le zéro cash n'est pas pour nous. Nous avons 42 euros en poche en moyenne parce que c'est plus sûr, parce que c'est plus sain même, parce qu'en liquide, je paye sans craindre de l'annoncer sur 20, 30 sites internet à la fois, voire à des hackers quelque part en Ukraine, parce que le cash n'est pas mort malgré les apparences. Eh bien, on en parle ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Es, le téléphone sonne.
Allez, on commence avec vous, Sylvain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Sylvain.
Merci.
Allez-y, on vous écoute.
Ah voilà, ben moi j'ai pas de cash, j'ai 65 ans et j'ai jamais eu de carte bleue.
Ah, on va vous mettre sous verre alors.
Voilà, donc je fonctionne qu'avec du cash.
Et pourquoi ?
Parce que j'ai pas. Premièrement, j'ai pas envie d'être pisté. Donc j'ai pas envie de savoir qu'est-ce que j'ai acheté, à quel endroit, à quelle heure, et s'il y a une caméra avec qui j'étais.
Mm-hmm.
Voilà. Donc c'est tout. C'est uniquement pour ça.
Et ça vous a. Et
pardon.
Plus,
y a, pardon. Je non, non, me vous permets en de vous interrompre. C'est. Il y a aussi le fait que la carte elle est facturée à l'utilisateur et elle est facturée par le commerçant à chaque transaction. Voilà, donc moi, la carte bleue à la banque où je suis, ça coûte 5 euros. 5 euros, ça fait 60 euros par an. Si on a deux comptes, ça fait 120 euros par an. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est tous les ans, je me fais un week-end, j'appelle ça week-end carte bleue, où je dépense 120 euros pour me rincer la gueule.
Bah écoutez, formidable. Et juste une dernière question, Sylvain, avant de vous laisser. Est-ce que ça vous a déjà posé souci ou pas?
Est-ce qu'il y a des... non, parce qu'une fois, j'étais à station-service, j'avais plus d'essence, c'était dimanche, il faut payer par carte. Et la première voiture qui est arrivée, je lui ai dit, écoutez, j'ai pas de carte, est-ce que vous voulez me mettre 20 euros? Et je vous donne 20 euros, je vous donne un billet. Voilà. Il n'y a eu aucun problème.
Et sinon, vous avez toujours un chéquier, juste pour... après, je vous laisse, c'est promis.
Est-ce non, que... non, oui, j'ai toujours un chéquier. Oui, bien sûr, j'ai un chéquier, oui, j'ai un compte en banque, forcément. Oui.
Et ben
voilà. Je m'en sers très, très peu.
Et ben voilà, c'est ce que je voulais savoir.
Je m'en sers que pour les paiements par correspondance.
Voilà, ok.
Voilà. Après, il y a une remarque que je voudrais faire par rapport à l'information que vous avez diffusée tout à l'heure sur ces abrutis d'Australiens qui ont fait des fautes sur des billets.
Ouais.
Mais je voudrais vous dire qu'en 92, la France a sorti un billet à l'effigie de Saint-Exupéry avec une faute d'orthographe.
C'est vrai.
Oui, voilà.
C'est vrai. Je me souviens plus ce qu'on en a fait, du coup. Est-ce qu'on les a ramenés ou pas? Non.
On les a détruits.
On les a détruits. On les a détruits, ouais. On les a détruits. Vous avez une bonne mémoire, Sylvain. Mais enfin, ça m'étonne pas, parce que si vous ne maniez que du cash, vous connaissez par cœur tous les billets que vous avez eu en main.
Je ne les lis pas tous les matins, ce qui est écrit dessus.
Merci beaucoup. Okay. Merci pour cette jolie entrée en matière, Sylvain, pour discuter ensemble jusqu'à 20h, répondre à vos questions, vos interrogations, vos témoignages. Pascal Ebel est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC. Et bonsoir, Christian Chavagneux.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste à Alternative économique. Tiens, je vais commencer avec vous. Christian Chavagneux. Alors je disais en plaisantant qu'on allait le mettre sous verre, Sylvain, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais des gens qui n'ont pas de carte bleue du tout, et en même temps il y a un argument qui m'intéresse dans ce qu'il dit, moi j'ai pas envie d'être pisté.
Ouais,
et ça peut-être que c'est ça l'argument numéro un, au fond des gens qui sont rétifs, si ce n'est à la carte, en tout cas au paiement dématérialisé au sens large.
C'est un argument de liberté individuelle, hein. C'est l'une des rares, lorsqu'on paye nos achats en liquide, en cash, c'est l'une des rares fois où on n'est pas pisté par une entreprise privée qui va se servir servir de l'information qu'on lui a donnée avec nos achats pour essayer de nous fourguer autre chose. Les GAFA l'ont bien compris, hein, Amazon, vous l'avez évoqué dans votre introduction, il y a ces fameuses boutiques Amazon Go où vous ne sortez plus rien du tout parce que vous êtes inscrit d'abord sur le site et vous avez des caméras, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à scanner tout ce que vous mettez simplement dans votre sac et quand vous passez les bornes qui sortent du magasin, à ce moment-là, on sait exactement ce que vous avez pris. Votre carte bleue est débitée tout de suite. Donc, on vous piste, en fait. Il a raison, le monsieur.
Alors,
il a raison, Sylvain.
On nous piste quand on achète sur Internet, on nous piste quand on achète sur des sites avec des applis, etc. Mais quand on se contente de payer avec la carte, au fond, on nous piste pas.
Non ben
si,
parce
je paye,
que...
si je paye juste au resto avec ma carte bancaire, si j'en sais rien, je prends de l'essence avec ma carte bancaire, par exemple, qu'est-ce qui peut m'arriver en termes de pistage?
Ah bah non, là, ce qui vous arrive simplement, voilà. c'est essayer d'avoir quelques fraudeurs qui peuvent essayer de récupérer votre numéro de carte bleue. Mais c'est surtout si vous achetez sur Internet. Et maintenant, on est sursollicité pour acheter sur Internet avec notre carte bleue. C'est pour ça que vous avez d'ailleurs des banques qui ont changé leur offre et vous savez le petit code qu'il y a derrière, que vous devez toujours donner, qui peut changer très régulièrement, ce qui permet d'avoir une sécurité un peu plus importante.
Pascal Hébel, est-ce que en termes de comportement du consommateur, effectivement, il faut mettre Sylvain sous verre ou est-ce qu'on revient à des Sylvains, en fait, aujourd'hui?
Je ne pense pas qu'on revienne à des Sylvains. Ce qu'on voit bien, c'est que les plus jeunes sont moins réticents à utiliser du numérique, que ce soit dans le secteur de l'argent ou dans d'autres secteurs. C'est simplement qu'en effet, les Français, par rapport à d'autres pays, vont être beaucoup plus méfiants. Ils sont beaucoup plus inquiets par rapport à la fraude. Hein. Ça, c'est vraiment une.
C'est intéressant sur les qu'on soit aussi inquiets, nous, en fait, par rapport à nos voisins. Parce qu'à la fois, on est très, on a beaucoup dématérialisé et en même temps, on est très inquiets.
Oui,
donc, en fait, c'est un peu comme si on payait avec la trouille au ventre à chaque fois. En fait.
Alors, c'est vrai que la dématérialisation, elle est arrivée très vite parce qu'évidemment, on y gagne en termes de praticité. Donc, c'est sûr que. Et puis, bon, on a inventé la puce, donc on était en première loge pour pouvoir utiliser cette carte bleue. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même. Même dans les achats sur Internet, hein, toujours une partie de la population qui ne veut pas acheter sur Internet parce qu'elle elle a peur qu'on lui prenne des données. Il faut juste rappeler quand même que ce qu'on appelle la RGPD vient de se mettre en place. Il y a quand même une protection des données que peu de gens connaissent encore, qui nous vient d'Europe. Et c'est certain que maintenant, aujourd'hui, les GAFA ne peuvent plus utiliser nos données comme auparavant. Il y a vraiment une protection qui est mise en place.
Moi, le chiffre qui me fascine là, dans ce que je disais tout à l'heure et que j'ai lu en préparant cette émission, c'est le 100 contacts multiplié par 1000. Moi, je me souviens, Christian Chavagneux, quand c'est arrivé, qu'on nous a beaucoup mis en garde. Ouh là là, attention, c'est plus dangereux le 100 contacts que quand on met sa carte dans l'espèce de terminal et qu'on fait son numéro. Est-ce qu'on a été... au fond, on finit par être tellement habitué qu'on se sent obligé de payer en 100 contacts. Ou est-ce qu'on a été rassuré? Ou est-ce que c'est comme ça? Désormais, on paye comme ça et puis c'est tout.
Non, c'est juste que l'offre des commerçants. Moi, je me rappelle au début du 100 contacts, les commerçants me disaient moi, je n'aurai jamais le 100 contacts parce que la banque va prendre trop de commissions. Hein, des arguments évoqués par votre éditeur. Ouais. Aujourd'hui, tous les commerçants utilisent le 100 contacts. Et j'ai le droit d'utiliser. Vous voulez bien que j'utilise le 100 contacts? Donc ça s'est complètement répandu. Attention, ça reste tout petit. Si vous avez une transactions et tout d'un coup vous en avez 1000, vous avez multiplié par 1000, mais c'est que 1000 transactions sur les milliards de transactions.
Mais en même
le
temps,
reste sans contact reste en France très très marginal.
Mais dans des situations qui sont très intéressantes, à la boulangerie désormais on peut payer sans contact, enfin on est dans des endroits qui étaient des purs endroits d'argent liquide en fait.
Oui tout à fait, mais les Français, nous on n'a jamais, alors on a une enquête de la Banque Centrale Européenne, notre Banque Centrale maintenant, qui nous compare aux autres pays européens, et là quand on est comparé aux autres pays européens, on s'aperçoit que nous on utilise beaucoup moins le cash que les autres pays européens. Les Allemands ont toujours plein de billets en portefeuille. Nous, très peu, et on est largement en dessous de la moyenne.
Et c'est vrai que les Allemands, c'est pour eux qu'on avait inventé, Pascal Hébel, le billet de 500 euros, qui désormais n'existe plus.
Ouais, tout à fait.
Alors, je ne sais pas si ça a été vraiment un manque à gagner pour les Allemands, ou s'ils ont fini par s'y faire, mais si on fait un tour en France aujourd'hui, si on descend dans la rue, là, en bas de la maison de la radio, je pense que personne, et autour de cette table, c'est pareil, personne n'a jamais vu un billet de 500 euros, au fond. Pour nous, ça n'a rien changé du tout, cette disparition du billet de 500, ça a bougé des lignes, on s'en fiche, non, complètement ou pas?
Oui, je pense qu'on a pas besoin de grosses sommes comme ça. Il y a peut-être encore dans certains métiers où on continue à utiliser, à garder de l'argent, et c'est pour montrer qu'on est riche en fait. Hein. Il y avait ces signes-là qui existaient il y a une cinquantaine d'années en France. Hein. On sortait ces billets pour montrer qu'on en avait. Peut-être que les Allemands sont dans cette relation-là à l'argent, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'argent que nous. Mais c'est vrai que il y a aussi en France le fait d'avoir des pickpockets hein, plus qu'en Allemagne. Donc en effet, il y a un risque aussi d'avoir du liquide. On a un risque aussi d'avoir du liquide sur soi, c'est où on le perd, où on fait tomber. Et donc c'est une des raisons pour laquelle on a moins de liquide sur nous. Peut-être.
Un million d'euros en billet de 500 euros, c'est juste 2 kilos. Donc ouais. C'est aussi facile de transporter quand on a beaucoup de cash à transporter. Alors bon, c'est peut-être une situation bizarre. Quand
alors
on a
c'est ce que j'allais vous dire. Si vous avez autant de cash à transporter, Christian Chavagneux, merci de le partager avec moi. Mais précisément d'ailleurs, si aujourd'hui on est moins, c'est pour ça qu'il y a un paradoxe en fait avec cette histoire d'argent liquide, parce que l'image que l'argent liquide peut avoir, c'est ça, c'est la valise de billets. Donc c'est de la fraude, c'est de l'argent qu'on fait transiter d'un pays à un autre, c'est du blanchiment. Ça a été aussi le financement du terrorisme. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui on n'a plus le droit de payer au-delà de quelle somme déjà en liquide. Je crois que c'est 1000 et quelques euros.
C'est ça, quelque chose comme ça.
Alors que ça a été plus de 3000 euros pendant très longtemps. Il y a aussi, c'est à ça qui est attaché l'argent liquide aussi. Est-ce que c'est vrai aussi que moins il y a de liquide, moins il y a de fraude, non ou pas?
Alors. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça, c'est un peu les valises de billets à la papa, c'est les années 60-70. Aujourd'hui, quand vous êtes un fraudeur, vous voulez déplacer de l'argent, vous ne déplacez pas physiquement l'argent, vous le déplacez juridiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété de l'argent que vous avez, des comptes que vous avez, plutôt que d'être enregistré en France, ça va être enregistré en Suisse, aux îles Caïmans, au Panama, où vous voulez. Mais on déplace la propriété juridique. L'argent, il n'est pas en Suisse. L'argent, il n'est pas aux îles Caïmans, au Panama. L'argent, il est en France, il est à Tokyo, il est à Londres, il est à New York, il est sur les grands marchés financiers.
Tiens, il y a Marc sur franceinter.fr qui nous dit l'attachement des Français à l'argent liquide, c'est aussi qu'ils sont attachés à une sorte d'économie parallèle, le travail au noir par exemple. Est-ce qu'on peut le dire aussi froidement que ça, Pascal Hébel ou Christian Chavagneux? Est-ce qu'on peut le dire aussi froidement que ça?
Oui, tiens, c'est vrai que c'est une des utilisations du liquide, hein, bien sûr, hein, quand vous utilisez des... Et ça existe toujours, sans doute plus que dans les pays du nord de l'Europe, donc ça s'utilise là, mais on utilise aussi, je pensais au marché, quand vous allez au marché, et on a plus de marchés qu'ailleurs, on n'accepte pas de payer en liquide, enfin on n'accepte pas de payer avec une carte bleue sur les maraîchers par exemple.
Florence est à Lyon, elle nous demande si on a plus tendance à dépenser quand on est quand on paye en carte bancaire. Quand je paye en liquide, dit-elle, j'ai l'impression de faire un peu plus attention, mais dit-elle, j'ai jamais fait le calcul non plus. Est-ce qu'on a une vision différente de notre argent quand il est dématérialisé?
Je suis pas sûr. On a un budget à gérer. Alors le gérer en chèque, le gérer en cash ou le gérer en carte bleue, quand il y a plus rien à la fin, il y a plus rien à la fin.
Andrés, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Andrés. On vous écoute.
Oui. Voilà. Moi, tout simplement, ma réflexion, c'est que si on perspective à plus ou moins long terme, donc cette société va proposer l'arrêt du liquide. Voilà. On va pouvoir payer les choses par l'iris, par la lecture de l'œil. On va aller de plus en plus dans la sécurité, et il y aura donc ces gens qui auront les moyens d'avoir ce système, de l'utiliser, et puis il y aura les laissés pour compte. Moi, je pense que ce système-là bancaire, il y aura une fracture entre ceux qui n'auront pas accès au système bancaire, tout simplement, et ceux qui auront accès à ce système financier. Et sachant que effectivement, nous sommes pistés, comme précédemment votre auditeur l'a dit, on est pistés en permanence. Et en plus, ma réflexion fait que les gens qui ont, eux, la possibilité de vivre hors système, entre autres les circuits courts, les petits maraîchers dans nos campagnes, où eux, ils n'ont pas la carte bleue, tout ce système va créer, à mon avis, une révolte citoyenne face au pouvoir de la finance. Moi, j'ai une carte bleue qui me coûte 9 euros par mois, et à la fin du mois, eh bien voilà, je suis obligé de l'utiliser, et je n'ai que 500 euros de revenus par mois. Donc vraiment, je suis taxé dès que je fais un petit découvert. Voilà, on est coincé par un système financier qui nous oblige à utiliser notre carte bleue, et même plus le papier, même plus le chèque, on paye paye tout de suite. On peut payer tout de suite. Ce qui fait qu'il y aura des gens, ils vont payer. Parce que ce sera facile de payer. Mais à la sortie, eh bien, ils auront des agios. Parce que il y aura plus cette monnaie pour rendre réel l'achat, quoi. Mmh. On n'aura plus besoin de la monnaie, on se rendra même pas compte de ce que l'on dépense.
Merci beaucoup, Andrés, pour ces remarques et pour ce témoignage. Christian Chavagneux, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il y a pas est-ce que c'est pas plus simple, effectivement, quand on voit l'argent? Et du coup, le corollaire, et j'oublie pas une partie de ce que nous dit Andrés, est-ce que ça veut dire que, plus on a d'argent, plus on a tendance à dématérialiser ou pas, en fait? Est-ce qu'il existe une corrélation entre les deux?
Il y a plein de choses intéressantes, ouais, hein, dans ce qu'il a dit. Est-ce que ça fait le bonheur des banquiers? Oui, ouais, c'est très clair. Hein. Moi, vous pouvez aller sur Internet, vous trouvez une association qui s'appelle Better Than Cash Alliance, l'alliance pour mieux que le cash. Mm-hmm. Et derrière, il y a qui? Derrière, il y a Citibank, la grande mm-hmm. banque américaine, il y a Mastercard, mm-hmm. il y a Visa, il y a PayPal, on connaît mm-hmm. tout ça. Et ce sont des gens qui sont en contact avec les grandes institutions internationales pour aider, favoriser dans les pays en voie de développement l'utilisation de la carte bancaire, l'utilisation du mobile, y compris dans des pays où il n'y a pas de système bancaire qui sont très développés. Derrière, ça veut dire des identifications extrêmement précises, utilisées aussi pour faire des cartes électorales, par exemple. Ça veut dire que demain, ces identifications qui vous permettent de sécuriser les paiements peuvent être utilisées pour contrôler les populations. En Suède, c'est le pays où on nous dit, s'il y a un pays où il n'y aura plus de cash demain matin, c'est la Suède. Tous les Suédois.
Des pays, des pays baltes aussi, Estonie par exemple, des endroits comme ça où le paiement par carte est super développé en tout
chose. Mais le pays dans lequel c'est le plus développé, c'est la Suède. Et pourquoi? Parce qu'il y a un paiement mobile qui est très très facile depuis plusieurs années avec votre téléphone qui s'appelle Swish. Mm-hmm. Et Swish, c'est aussi un consortium de banquiers. Donc oui, derrière, il y a beaucoup de commissions qui sont payées. C'est très très utile pour les banquiers, pour les financiers de développer ce type de paiement. Maintenant, pour les raisons qu'a dit Andrés, parce qu'il y a du hors-système, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès, je crois que le cash va continuer à
vivre. Alors voilà, est-ce qu'il y aura, on arrive vers quelque chose de parallèle? Alors, il y a déjà un monde et un autre monde. Il y a un monde des très riches, un monde des moins riches. On ne va pas faire comme si on l'ignorait. Là, est-ce qu'il risque d'y avoir une espèce de monde de l'argent matérialisé, de l'argent dématérialisé, où au fond, on n'a pas accès aux mêmes choses, en fait, au bout du bout, Pascal Hébel?
Il y a quand même des choses où vous ne pouvez pas faire autrement que d'être, de payer des forfaits. C'est-à-dire que l'assurance, vous pouvez plus la payer avec de l'argent en liquide. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un tas de choses qui n'existent plus avec de la monnaie. Et donc forcément,
et bientôt plus avec des chèques non plus d'ailleurs.
Et oui, les chèques sont en train de disparaître. Donc forcément, tout le monde est obligé, quel que soit son niveau de revenu, d'avoir un compte en banque, en tous les cas en France, et d'avoir pratiquement une carte, parce qu'il peut pas. Il y a des endroits où on peut pas payer sans, quoi, en fait. Hein. Et ce qui sans doute est plus compliqué, c'est qu'on est de plus en plus soumis à des forfaits, à des abonnements. Et en fait, on vous vend, enfin, de payer 9 € par mois pour une carte. Je trouve ça hallucinant. Hein. C'est parce que je paye moi, donc ça paraît énorme, quoi, en fait. Hein, alors que ce qui veut dire qu'il y a des populations qui, en effet, ne connaissent pas bien toutes les offres qui existent, puisqu'il y a des banques en ligne quand même qui proposent des services beaucoup moins chers. Et c'est qu'on a l'impression qu'il y a aussi une France de ceux qui savent bien se débrouiller, qui ne sont pas forcément les plus riches. Hein. Ce n'est pas ceux-là qui cherchent à mieux se débrouiller. Et on le dit dans la consommation, c'est que ceux qui arrivent à payer le moins cher, c'est souvent la catégorie qui est au-dessus de la classe la plus modeste.
Ça veut dire aussi qu'il y a une France qui, n'intéresse pas du tout ceux qui favorisent au fond ces systèmes-là, parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais accès à tous ces systèmes-là, ni les PayPal, ni les Apple Pay, etc., etc.
Oui, mais à côté des PayPal et des Apple Pay, les financiers alliés avec les grandes entreprises de technologie vous proposent de plus en plus, si vous avez un simple téléphone portable, enfin, il faut déjà avoir un téléphone portable, mais pratiquement toute la population mondiale maintenant a accès quasiment à un téléphone portable, même si la fracture numérique reste forte dans des pays en développement, même dans les pays en développement, même dans des zones reculées, vous pouvez avoir accès à des systèmes de paiement mobile, et ça va continuer à se développer, et ça va poser des problèmes. Vous savez, les autorités publiques suédoises, vous savez à quoi elles réfléchissent en ce moment en Suède? Elles ont deux gros problèmes, en fait. Elles ont peur d'une panne d'électricité, ont peur d'une cyberattaque. Et c'est ça les problèmes de la sécurité, je dirais de la stabilité monétaire et financière de demain. C'est est-ce que l'électricité va continuer à fonctionner, est-ce qu'on va pas se faire prendre nos systèmes financiers par des terroristes ou par une cyberattaque?
On nous oblige, j'ai retenu retenu ça aussi, c'est l'un des termes qu'a utilisé Andrés, c'est un peu ce que vous disiez, Pascal Hébel. À un moment, on nous force à utiliser des moyens qu'on ne voulait pas utiliser. En fait, c'est ce que nous dit notre auditeur. Effectivement, vous parlez de l'assurance, mais il y en a plein d'autres. Mmh. Et au fond, on nous oblige non seulement à utiliser la carte, ça veut dire qu'on nous oblige aussi à laisser notre numéro, donc à laisser une trace, laisser notre identité, etc.
Oui, tout à fait. Vous pouvez pas avoir un téléphone mobile sans laisser votre numéro de carte bleue. Hein. C'est-à-dire que c'est que des prélèvements. Vous achetez pas. Enfin, vous êtes vos abonnements se font de cette façon-là. Je voulais juste dire une chose, c'est que sur la partie des circuits courts, il y a quand même des systèmes qui se mettent en place, qui vont à l'encontre des systèmes qui sont les monnaies locales.
Ouais.
C'est que on voit bien qu'il y a quand même des
très
initiatives.
Très marginal, mais ça existe.
Oui, mais ça se développe. Il y a vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des choses qui se développent au niveau territoire dans certaines régions. Et il y a quand même faut croire en fait en l'innovation sociale et humaine pour arriver à aller à l'encontre un petit peu de ces gros systèmes qui nous absorbent en effet et qui finalement permettent justement de ça peut être encore dématérialisé mais on peut aussi rentrer dans des choses qui vont à l'encontre des grandes banques.
Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir à tous.
Allez-y, on vous
Merci
écoute.
Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Eh bien, écoutez, moi je vais vous donner un exemple qui me paraît honteux. J'ai une amie qui est en recherche d'emploi. Pour sa recherche d'emploi, elle fait du covoiturage. Vu sa situation, elle bénéficie de la CMU. Elle a été épinglée par la CPAM. Elle a reçu un courrier avec tous ses relevés de compte sur une année. Ils lui ont mentionné d'où venaient les virements. C'est-à-dire les virements de Blablacar, puisque ça ne se fait que par virement, évidemment. Ils lui ont demandé d'expliquer tous ces virements, attention, récurrents, d'un site de covoiturage, entre parenthèses, Blablacar. Veuillez vous en expliquer. Elle explique qu'elle a fait un retour de courrier, que c'était pour sa recherche d'emploi, et qu'elle a fait l'historique sur une année sur Blablacar. Elle a relevé toutes les dates, et donc elle a renvoyé son courrier, et voilà. Elle a eu un rendez-vous à la salle des conseils de la CPAM. Elle pouvait être accompagnée, je l'ai accompagnée. Une immense salle, une salle de banquet, une grande table en U. Plein de monde tout autour, sauf sur le retour des tables, deux fauteuils. Elle et moi, je me suis mise à côté. Nous avions tous un écran d'ordi et une souris à notre qui était disponible. Avec la souris, quand elle actionnait la souris, elle voyait tous ses relevés de compte qui s'affichaient. Comme cela, toutes les personnes autour de la table, on était sur la même longueur d'onde. Elle a expliqué ce qu'elle avait dit dans le courrier, que c'était pour sa recherche d'emploi, et que c'était en semaine, ce n'était pas pour aller danser, et que voilà. Ils lui ont reproché de ne
Pardon,
pas...
Pardon, mais j'ai pas compris qui était « il ». Excusez-moi.
C'est-à-dire tout le monde, les personnes qui l'ont reçu.
La CPAM.
D'accord.
Il y avait au moins 12 personnes dans la salle des conseils. 12 personnes, plus elle et plus moi, pour l'accueillir.
Et alors, je comprends...
Elle a pleuré devant tout le monde parce qu'elle a redit que c'était pour sa recherche d'emploi. Parce qu'ils lui ont expliqué pourquoi elle n'a pas fait part... de ses virements. Elle aurait dû déclarer ses virements Blablacar.
D'accord. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est la CPAM qui lui reproche ses virements Blablacar. En fait, j'ai un peu du mal à piger.
Tout à fait. Ce que je vous ai dit au début, elle bénéficiait de la CMU. Pouvoir bénéficier de la CMU, il y
d'accord.
a un taux,
zéro revenu.
Évidemment. Voilà.
D'accord.
Donc, comme elle n'a pas déclaré tous ces petits trajets qu'elle a fait, évidemment, si on les prend en considération, elle a dépassé
d'accord.
un tout petit peu.
D'accord, donc ce que vous dites, c'est que, d'accord, et que donc du coup, d'une manière ou d'une autre, elle a été fliquée, comme ça on a su effectivement qu'elle avait ses revenus Blablacar, et c'est la raison pour laquelle vous jugez ça scandaleux. Je comprends exactement ce que vous nous dites. Christian Chavagneux, dans ces cas-là, d'où vient l'information qui arrive donc jusqu'à la CPAM, qui a eu un revenu.
C'est la Sécu qui fait le contrôle à la fraude sociale. Alors évidemment, on se retrouve avec des situations qui sont individuelles où la personne se voit tout d'un coup mise à nu sur le plan financier devant tout le monde. C'est franchement pas très agréable. D'autant plus quand on sait que dans la fraude sociale, le plus important, c'est pas la fraude des gens qui utilisent la CMU ou le RSA, c'est la fraude des employeurs qui ne déclarent pas et que la fraude sociale, c'est tout petit par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est la fraude fiscale.
Voilà, et puis effectivement, des virements Blablacar, j'imagine que ça ne l'a pas rendu riche, pauvrette. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jeanne. Tiens, je vous confie celui de Marine, qui est arrivée par mail. Elle vient des Pays-Bas, Marine, et elle dit « Je vis à Amsterdam, où le cash n'est plus du tout utilisé. Ici, on paye sans contact à partir d'un centime, et de nombreux magasins et restaurants sont cashless, c'est-à-dire sans caisse. Tout le monde s'envoie des demandes de remboursement par téléphone. Je n'ai plus de liquide dans mon porte-monnaie depuis au moins 2 ans, et d'ailleurs, les pièces de 1 et 2 centimes ne sont même pas en service aux Pays-Bas. » Parce qu'elle est belle. On est vraiment loin de tout ça. On est beaucoup plus proche du modèle suédois dont nous parlait Christian Chavagneux tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Donc, dans ces pays-là, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans ces pays-là, il y a d'autres gestes qui sont marquants. C'est que vous avez le choix de ne pas prendre le ticket. Et donc, c'est un geste écologique. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas mis encore en place, surtout quand on sait que l'encre peut être nocive. Donc, et les petites pièces ne sont pas rendues. Donc, c'est étonnant parce qu'en fait, on vous prend un peu d'argent. En fait, souvent, on prend la monnaie en vous prenant un centime. Donc, c'est en effet des façons de faire qui, pour l'instant, en France, il y a trop de peur, en fait, par rapport. On a vu la Grèce où on n'a pas confiance dans les banques en France. Quand en Grèce, on a vu qu'on pouvait ne plus avoir d'argent du jour au lendemain, on n'est pas prêt d'arriver à ce qui se passe aux Pays-Bas.
Oui, en même temps, on reste dans les pays européens qui utilisent le moins le cash. Regardais les stats, les Pays-Bas, France et Portugal, parce qu'on dit souvent les pays du Nord, mais Pays-Bas, France et Portugal sont les pays dans lesquels les gens ont le moins de cash.
C'est notre grand paradoxe, en fait. On utilise peu de cash, mais on adore avoir du cash.
Vous savez, même les Suédois qui sont vraiment les plus proches d'une société sans cash, vous savez, en Suède, vous rentrez dans une église, et à la fin, le pasteur, il fait pas la quête, il vous donne le numéro d'appli sur lequel vous pouvez vous connecter pour faire des dons. Et vous avez dans les magasins, vous avez des pancartes. Ici, on ne prend pas le cash. Donc là, c'est vraiment... Nous, on n'en est pas encore là. Cela dit, on voit bien que ça commence à se développer. Et nous, on n'a pas peur, les Français, de ça.
Mais est-ce que ce serait légal? Est-ce qu'on a le droit en France aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un magasin où je mettrai no cash, cashless, pas de cash, dans toutes les langues, et je n'accepterai pas d'argent liquide? J'ai le droit de faire ça légalement ou pas?
Juridiquement, je ne sais pas, honnêtement. En Suède, ça se fait. Moi, j'ai vu les boutiques avec ici, on ne prend que les cartes. Mais je ne sais pas si on a le droit juridiquement en France. C'est une bonne question.
Et cette question de Leïla, qui est une excellente question aussi. Comment donner de l'argent aux artistes du rue et aux personnes qui font la manche s'il n'y a plus de cash? Et c'est une vraie question.
Et les pourboires.
Et il y a aussi une question là-dessus. Effectivement, j'allais y venir tout à l'heure. Et les pourboires, comment ça se passe? Alors, cela dit, aux
Ailleurs,
États-Unis, il existe
écrit,
les types. Et on écrit les pourboires sur le ticket de carte bleue.
Et puis, vous pouvez toujours donner un sandwich, vous pouvez donner autre chose, un ticket resto.
Benoît, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute. Benoît, vous êtes dans la droite ligne de ce qu'on était en train de dire.
Oui, tout à fait. C'était ma question. C'était justement savoir si, dans le droit français, on avait le droit de supprimer le cash. Alors, moi, je pense qu'à terme, le jour où l'autre, il n'y a plus du tout de cash, ça résoudrait plein de problèmes sur l'argent liquide, l'argent noir, on va dire. Mais je voulais savoir si c'était légal ou pas de supprimer l'argent liquide si l'État pouvait supprimer la portabilité.
Merci beaucoup Benoît, et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur franceinter.fr et au 01 45 24 7000. À un moment, est-ce que ce serait légal de ne plus avoir le droit?
C'est une question de pratique de consommation. On s'aperçoit que les Suédois ont de plus en plus utilisé leur carte de paiement électronique, leur fameux paiement par mobile, et de moins en moins le cash. Là, il n'y a pas à légiférer. Alors oui, la Banque Centrale Européenne, vous l'avez rappelé tout à l'heure, arrête d'imprimer des billets de 500 euros, mais en fait, elle avait arrêté depuis 2014. Parce que personne n'utilise les billets de 500 euros. Donc c'est les pratiques qui donnent le là plus que le droit, je pense.
Il y a à nouveau une question sur le sans contact qui nous vient de Cédric de Marseille et qui dit « J'ai toujours peur d'avoir une carte sans contact parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait se la faire pirater beaucoup plus facilement. » C'était un peu la légende qui courait au démarrage du sans contact. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'était une légende, le piratage plus facile, Christian Chavagneux?
Non, c'est vrai qu'au début, beaucoup de personnes qui sont spécialistes de questions de cybersécurité se sont amusées à passer avec une sorte de petit terminal terminal près de vos portefeuilles.
C'est ce qu'on disait dans le métro, on peut avoir un terminal, on chope le wifi, alors, et c'est bon.
Honnêtement, il faut se départir de ses peurs aujourd'hui. Alors c'est, d'un côté, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus pratique, et de l'autre côté, je vois bien pourquoi les banquiers poussent à ça. C'est parce que il y a moins de pas gérer le cash et pas gérer les chèques, ça réduit le coût de gestion de l'argent pour les banquiers, mais en même temps pour les commerçants, pour les bars, pour les boulangeries qui n'acceptent pas le cash, bah c'est aussi la possibilité d'avoir moins de liquide en caisse, c'est la possibilité de se faire moins agresser. Donc ça va dans tous les sens.
On a beaucoup parlé de fracture territoriale ces derniers temps, ouais, en France. Y a-t-il aussi une fracture territoriale du cash ou du pas cash lorsqu'on habite dans une zone rurale, par exemple? Est-ce que c'est pas, on sait que des DAB sont supprimés, des distributeurs automatiques de billets sont supprimés très très régulièrement en France. Est-ce qu'il y a une fracture là aussi?
Oui, bah c'est ce que disait l'étude, hein, c'est qu'en effet, dans 24% des gens qui vivent en milieu rural disent qu'il n'y a pas assez de DAB, on a supprimé, donc ils ont moins accès à de la distribution de liquide, donc ils vont être obligés plus qu'ailleurs. Et d'ailleurs, dans ces zones-là, on achète beaucoup plus sur Internet, parce que de la même façon, on a moins de circuits de distribution, des commerces à proximité. Donc on sent que c'est vrai qu'il y a des façons de faire où la pratique elle se met en place sans qu'on s'en rende compte, hein. Quand vous achetez un billet de train, un billet d'avion, vous pouvez plus, enfin tous les automates ne vous autorisent pas vraiment à utiliser beaucoup de monnaie. Et puis dans les magasins, il y a des caisses où on ne prend que la carte bleue, il y a moins de queue. Mm-hmm. Et donc si vous voulez aller à une caisse où il y a personne, vous êtes obligé d'avoir une carte.
Christian Chavagneux, sur cette fracture territoriale, la fracture de l'argent matériel ou dématérialisé.
Dans tous les pays où on voit progresser les formes dématérialisées d'argent, le rural s'y met aussi, avec un peu plus de retard, mais le rural s'y met aussi, c'est pas qu'une question urbaine.
J'ai 69 ans, nous dit Jean-Louis sur l'appli de France Inter, et depuis 2 ans, je paye 50% de mes achats avec ma montre, sans contact, et je n'ai pas de problème. Il dit, et je trouve ça intéressant, il a 69 ans, je n'ai pas de code à retenir.
C'est vrai.
Et sérieusement, voilà une chose à laquelle on n'a pas forcément pensé tout de suite, mais plus de code, c'est pareil pour le sans contact, hein. On n'a plus de code à retenir. Alors après, il y a la difficulté des mots de passe, par exemple, qui viennent automatiquement. J'imagine que tout cela est plus facilement piratable, mais c'est un argument ou pas?
Ah oui, bien sûr.
Vous n'aurez plus de code à retenir.
Quand
un argument commercial.
Oui, bien sûr, la carte, quand vous la changez, il faut retenir un nouveau mot de passe. Vous avez des mots de passe partout, le code de votre porte, les codes que vous êtes obligé de mettre sur toutes vos applications. Bien sûr qu'on arrivera à des systèmes où on n'aura plus besoin de mémoire. Et on sait que la mémoire s'efface petit à petit. D'ailleurs, on a moins de mémoire de ce type.
C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de braquages de banque, de guichets de banque, et de plus en plus de crypto-braquages, hein, y compris alors, des particuliers, très peu en fait, des banques et des banques centrales qui se font braquer par des pirates informatiques. Et les braquages de demain, ils se feront sur l'informatique.
Ah, c'est vrai que
et ceux d'aujourd'hui déjà.
Ça rapporte sûrement beaucoup plus. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je vous écoute Olivier, allez-y.
Alors donc, moi j'aurais une question, c'est, j'ai entendu dire que il y avait, j'aurais deux questions, l'une qui engendrerait l'autre, hypothétiquement, c'est que j'ai entendu dire que les frais de retrait, quant au retrait sur les DAB, les distributeurs automatiques de billets allaient augmenter, ce qui serait peut-être une conséquence de la recrudescence des banques en ligne, qui n'ont pas d'agence, et donc les banques, pour se venger, feraient payer plus les retraits interbancaires. Banque, donc en dehors de notre banque à nous, et que est-ce que aussi, vu que toutes ces banques, pour lutter contre les banques en ligne, suppriment de plus en plus de distributeurs automatiques de billets, est-ce que l'argent liquide ne serait pas amené à court terme, genre 5-10 ans, à disparaître des petits villages, des petites communes, comme on le craint beaucoup dans certains milieux Internet?
Merci Olivier. Christian Chavagneux pour répondre à Olivier. Alors, sur la première partie de sa question.
Alors sur la deuxième qui est la plus facile, okay.
Est-ce que... Non, je vous en prie, faites comme chez vous.
Est-ce qu'on est en train de supprimer les DAB? Il faudrait regarder les statistiques. Je suis pas sûr qu'on ait moins en moins de DAB en France et en France par rapport aux autres pays. Par contre, l'autre question, évidemment, c'est un problème énorme pour les banquiers. Vous avez votre compte en banque dans une grande banque française. française, et puis vous prenez cet argent et vous allez payer plein de monde qui sont en dehors, enfin qui sont dans une autre banque. Donc la banque à laquelle qui a votre compte, elle voit ses ressources diminuer. Donc évidemment, on a d'abord limité le fait que, vous savez, au-delà de 3 retraits, par exemple, vous payez. Là, peut-être au bout d'un retrait, on va vous faire payer plus cher. Ça, c'est un problème de concurrence entre les banques. Et c'est vrai que votre auditeur a raison. Le fait qu'il y ait des banques en ligne qui n'ont pas toutes ces infrastructures à payer, ça leur coûte moins cher. Et donc celles qui ont du physique vont essayer de récupérer de l'argent, non pas en diminuant leur coût, diminuer le nombre de dames, je suis pas sûr. Par contre, en augmentant leurs recettes, en vous faisant payer ce service de plus en plus cher. Elles veulent pas que leur argent parte dans les autres banques.
D'ailleurs, Pascal Hébel, est-ce que la banque en ligne désormais est entrée dans les mœurs? Est-ce qu'on va facilement vers les banques en ligne aujourd'hui? Donc celles qui sont intégralement dématérialisées, il y a pas de guichet, il y a personne. Ouais. Est-ce que désormais c'est totalement facile pour tout le monde?
Ils ont eu du mal à entrer sur le marché français puisqu'ils étaient à l'origine pas français et que les banques institutionnelles françaises s'y sont un peu opposées, mais elles ont toutes créé leur banque en ligne aussi. Donc c'est quelque chose qui se développe. Alors surtout, ça se développe avec la multibancarisation, c'est-à-dire que les individus ont de plus en plus de comptes en banque grâce aux banques en ligne. Et donc, elles se sont développées parce qu'elles ont des offres attractives en termes de prix. Elles proposent de l'argent quand vous vous mettez chez elles. Donc oui, pour les gens qui ont les moyens d'aller dans les banques.
Il y a Patrick qui rebondit sur franceinter.fr, qui rebondit sur la question qui nous venait d'Amsterdam tout à l'heure et qui nous demande à quand la disparition des pièces de 1 ou de 5 centimes, y compris d'ailleurs pour ne plus avoir des 55,99€, 69,98€, etc. Est-ce que ça a été à un moment, Pascal Hébel, sur le papier, cette histoire de se débarrasser des petites pièces toutes petites ou pas?
On s'en est débarrassé en tous les cas aux Pays-Bas, parce que c'est un coût de les produire, donc en effet, on les utilise plus. Après, c'est pas possible d'avoir des prix qui soient arrondis, parce qu'il y a forcément des choses qu'on vend où ça a du sens de mettre des centimes. Par contre, d'arriver à un système comme aux Pays-Bas où on rend pas la monnaie avec des centimes, pourquoi pas?
Ouais, donc, mais en général, on arrondit, je vous le donne en mille, Christian Chavagneux, à...
Au-dessus, c'est ça.
Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Une toute dernière question, vous avez déjà un petit peu évoqué, elle vient de Claudine qui est à Saumur. Pourriez-vous aborder la question des monnaies locales? J'utilise celle de mon secteur, j'en suis ravie. Je pense qu'il faudrait développer cela. Qu'en pensez-vous? On disait tout à l'heure que c'était quelque chose d'assez marginal finalement, mais est-ce qu'on développe pour ces raisons-là, précisément, de plus en plus de monnaies locales ou pas, Christian Chavagneux?
Il y a plusieurs milliers d'innovations partout, petit peu partout en France et dans le monde sur les monnaies locales. Ça pose quand même deux problèmes. On contrôle plus la circulation de l'argent et d'un autre côté, c'est quand même des transactions qui échappent à l'impôt. Alors moi, je reste quand même un petit peu attaché au fait que côté des transactions économiques, vous payez des impôts dessus.
Allez, tiens, je vous laisse avec ce mail de Mario. Un homme devrait pouvoir acheter une fourrure à sa maîtresse sans que sa femme ne le sache pour venir à la dématérialisation. Je ne cautionne absolument pas ce mail, Mario. Mais il se trouve qu'on n'écrit plus désormais sur les tickets de carte bleue ou d'où viennent les achats. Donc tout ça devient extrêmement facile. Bref, cette société est terriblement amorale. Je vous remercie beaucoup de votre passage dans le téléphone sonne et merci à tous pour vos appels. Portez-vous bien.